Europe 1.
Votre grand journal du soir se poursuit sur Europe 1, Nathalie Lévy, et c'est l'heure du débat des grandes voix avec vous ce soir autour de la table. Mickaël Darmon, Adélaïde Zulfi-Karpazil, directrice du département opinion de BVA, et Judith Vintraube du Figaro Magazine.
Bonsoir les grandes voix,
bienvenue,
merci d'être là ce soir pour aller dans un petit instant sur les municipales, d'ailleurs qui seront maintenues en dépit du coronavirus, on peut le dire, puisque ça a été confirmé ce matin sur notre antenne d'ailleurs. Cette épidémie qui arrive, ça ce sont les mots également d'Emmanuel Macron ce matin à l'hôpital La Pitié-Salpêtrière à Paris, où un premier Français est décédé hier. Je voudrais vous interroger d'abord sur la terminologie, le vocabulaire. Il a changé, Judith Vintraube, dans la bouche de l'exécutif ?
Moi, je ne trouve pas qu'il ait vraiment, vraiment changé. On est face à une équation quasiment impossible à résoudre, qui est de prendre les mesures nécessaires, avec l'adaptabilité nécessaire, sans affoler la population. Et c'est, ça tient vraiment...
C'est dû en même temps. Hein.
De l'impossible. Alors là, c'est dû en même temps qui fait mal aux adducteurs, parce qu'on voit très bien les ventes de masques s'envolent. Les gens ne comprennent pas certaines décisions, par exemple, d'avoir laissé... Turin-Lyon. Alors qu'au même moment, Turin fermait ses musées, en plus.
Exactement.
Donc c'est extrêmement compliqué. Et puis en plus, il y a une donnée qui, pour un politique, est quasiment pas du domaine du disciple. C'est que la France, pour l'instant, a eu de la chance. Alors ça, vous l'entendez dans la bouche de certains scientifiques qui n'ont pas de compte à rendre à des électeurs. Mais un politique vous dire... Pour l'instant, on a eu de la chance, ça pourrait ne pas durer, ou ça pourrait durer, mais en tout cas, une partie des événements nous échappe. C'est très difficile à assumer. Ouais.
Alors évidemment, il y a plusieurs choses, parce qu'il y a aussi la voix d'Edouard Philippe dans l'après-midi, qui lui change un peu de ton, en quelque sorte, Adélaïde. Il est plus rassurant quand Emmanuel Macron, le matin, est peut-être un peu plus anxiogène. Il s'adresse aux médecins, il échange directement avec eux. Cet après-midi, Edouard Philippe se voulait plus rassurant. Dans le même temps, il réunit les chefs de parti, les présidents des groupes parlementaires, le gouvernement. On fait le point sur le coronavirus. Et là, la solidarité est affichée.
Oui, mais c'est vrai qu'on est encore une fois dans le en même temps, avec cette volonté, je pense, de... ne pas affoler une opinion publique qui jusqu'à présent, mais là on va assister sans doute à une accélération, mais qui jusqu'à présent n'était pas spécialement inquiète, en tout cas ne manifestait pas. Et là, pour ne pas effectivement pour essayer de restreindre un mouvement qui va sans doute s'accentuer, on est dans cette à la fois rassuré et en même temps vouloir montrer que oui, on a conscience de l'enjeu, on fait comme nos voisins européens, mais en même temps c'est pas si grave, donc on est vraiment dans le en même temps. Mais je ne sais pas comment va réagir l'opinion.
Est-ce qu'on est dans une véritable unité nationale, Mickaël Darmon, à l'heure qu'il est, quand on voit les présidents de groupe tels Jean-Luc Mélenchon, par exemple ? Pas la peine d'en rajouter et de paniquer. Bruno Retailleau pour Les Républicains, pareil, on a besoin d'unité nationale. Mais les critiques, quand même, de Marine Le Pen, au regard notamment des supporters du match.
Alors le paradoxe de ces critiques, c'est qu'en fait, elles viennent éclairer et rééclairer que dans ces moments-là, c'est le rôle de l'État qui est central. Donc, ces critiques, au fond, sont une forme d'aveu de leur impuissance aux personnes qui les profèrent. En réalité, ce à quoi on assiste depuis quand même quelques temps, et c'est pas pour rien si aujourd'hui les deux têtes de l'exécutif ont pris la parole, c'est que le dispositif de gestion de cette crise a été maintenant installé. Depuis le début, depuis environ un mois, il a été décidé en France que ce serait une crise sanitaire et que l'on donnerait et qu'on adosserait toute la parole des dirigeants publics sur les avis
des scientifiques, des chercheurs. Et
c'est ce à quoi on assiste. Il y a également une intégration des cellules de crise entre le Quai d'Orsay et la santé qui est au fond assez efficace, parce que ça a permis aussi le rapatriement, de manière parfois assez discrète d'ailleurs, des familles françaises avec des conjoints et des enfants de nationalité chinoise, ce qui a été aussi une péripétie diplomatique assez importante et qui est restée discrète. En fait, on s'aperçoit que le bon vieux État bien centralisé, bien jacobin de la Ve République, eh bien, tout d'un coup, il a quand même ses vertus.
En France, le moyen de faire autrement.
Non, j'entends bien, mais je dis ça parce qu'il a été dit maintes fois depuis le début du mandat, de quinquennat, à quel point tout ça devait changer. Mmh. On était maintenant dans le circulaire, ouais. On devait changer de mode de fonctionnement.
Ouais. Mais il y a, des situations où ça s'impose.
Encore de beau reste.
Bah oui, mais il y a des situations où cela s'impose, de fait. Et puis on a vu, évidemment, Emmanuel Macron s'envoler ensuite vers l'Italie. On renoue le dialogue parce que là aussi, il faut, au regard des événements, se rapprocher, sommet bilatéral, là en cours d'ailleurs. On a Vanessa qui est avec nous depuis Lyon. Bonsoir Vanessa.
Oui, bonsoir.
Vous avez vu et vous avez écouté Emmanuel Macron ce matin à la Pitié-Salpêtrière et il y a quelque chose que vous avez repéré qui vous a choqué.
Oui, alors moi je réagissais. Alors tout d'abord à ce que vous venez de dire, notamment quand vous parliez de l'Italie, où en fait moi ma réaction de citoyenne française aujourd'hui c'est que je me sens pas protégée. Je suis dans un pays où on entend beaucoup de choses, on sait qu'on maîtrise pas le virus, qu'on en a une connaissance qui est somme toute hasardeuse. On parle de période d'incubation de 14 jours, puis de 20 jours, enfin donc et de facteurs contaminants qui pourraient contaminer une vingtaine de personnes voire plus. Et en fait aujourd'hui on respecte pas le principe de précaution et de prévention. Qu'on ait un hôpital qui soit préparé, et comme on l'entend, c'est très bien qu'on ait des gens brillantissimes, comme le docteur Salachas qui s'est énervé ce matin face à Emmanuel Macron. On sait très bien qu'on a, on a aujourd'hui un hôpital public avec des gens extrêmement compétents, qui a une faute de moyens, ça c'est évident. Mais moi, ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, le principe de prévention et de précaution, ben, il n'est pas respecté. On a laissé des gens dans des bus et dans des trains venir
faire un match. À échelle variable, disons.
Bah, il est à échelle, en tout cas, où il y a un manque de cohérence. Aujourd'hui, quand on dit, voilà, c'est pas grave que les Turinois ils viennent voir le match, on n'est pas gênés, ils vont s'arrêter dans des aires d'autoroute, ils vont aller dans des restaurants. Il se peut qu'il y ait des malades, on ne sait pas, et on les laisse venir sur notre territoire.
Merci,
Aujourd'hui,
Vanessa.
Pardon. Non, j'ai juste le sentiment qu'on a un président qui nous dit qu'il faut faire face à une épidémie, mais quand il y aura des gens, on sait qu'hier, il y a quelqu'un de l'Institut Pasteur qui disait que 20% des gens de moins de 60 ans vont être touchés et qu'il y aura des décès. Je suis désolée, on n'a pas envie d'en passer par là. Voilà,
merci Vanessa, c'est intéressant de vous entendre. Merci beaucoup, vous êtes à Lyon, Vanessa. Merci beaucoup de nous avoir appelé. C'est intéressant ce qu'elle dit, Vanessa.
Oui,
c'est vrai que c'est à géométrie variable.
Tout à fait vrai. Et en plus, derrière ce que Vanessa décrit, en fait, il y a un combat idéologique. Puisque c'est Marine Le Pen...
Bah oui, sur la fermeture des frontières qui est allée en
première. La fermeture des frontières, peut-être pour de bonnes raisons, peut-être par conviction, peut-être qu'elle... parce qu'elle trouve, comme moi je viens de le dire, qu'effectivement c'est pas très logique de laisser venir des Turinois alors que Turin ferme ses musées. Et puis peut-être aussi parce que ça vient apporter de l'eau à son moulin qui est la fermeture des frontières.
Bien sûr.
Oui, non mais on peut pas exclure l'un et l'autre. C'est que de l'idéologie.
C'est que de l'idéologie ou de la surenchère.
La façon dont Sibeth Ndiaye ce matin ou Édouard Philippe cet après-midi évoquent les solutions farfelues, je sais plus quelle terme à employer Édouard Philippe, les idées simples mais qui en fait ne fonctionnent pas.
Mais non, attendez, vous parlez du lavage des mains là, le basico-basique.
Non, Édouard Philippe à un moment dit on entend beaucoup de rumeurs, on entend beaucoup d'idées simples qui seraient le remède miracle, mais qui sont en fait c'est faux. Et ben c'est à ça évidemment qu'il répond et lui aussi est dans un combat idéologique.
Ouais. L'union sacrée elle est pas possible, Adélaïde. De fait,
ça me paraît compliqué. On voit que sur d'autres sujets qui mériteraient cette solidarité, cette union sacrée, on ne l'a pas. Donc sur un sujet comme ça, alors qu'on voit même, je fais le lien avec le sujet suivant, qui sera les municipales, on voit que déjà à Paris, on exploite le sujet dans les polémiques.
C'est pas qu'on puisse dire.
On exploite le sujet dans les polémiques pour, au contraire, c'est un élément de campagne pour s'opposer les uns les autres. Je n'y crois pas trop. Je ne crois pas qu'on se dirige vers ça.
Michael Darmon.
La tradition, c'est quand même de se retourner vers l'expertise de l'État. Et quelque part, malgré, et bien entendu, les inquiétudes sont absolument légitimes, pointer des éventuelles incohérences, c'est encore plus légitime. Et tout le monde a le droit de regarder et de participer. On voit quand même que, le système, on va dire, général est mobilisé. On a vu aussi à quel point la coordination des ministres européens concernés pouvait exister. Et une fois de plus, fermer les frontières, à l'époque de la Grande Peste, il n'y avait pas de mondialisation et ça n'a pas empêché de se développer.
Donc, et on a vu aussi, il y a quelques années, il y a 10 ans de ça, vous en souvenez, le principe de précaution à outrance, finalement, qui s'était aussi retourné.
La question, c'est à quoi servirait-il de mettre des douaniers et d'empêcher les gens de passer, de bloquer le monde entier, de faire en sorte,
de toute façon,
je ne sais pas.
Personne n'a dit fermer complètement les frontières.
Elle a dit les frontières avec l'Italie pour Marine Le Pen.
Non, elle a dit contrôler. Elle n'a même pas dit fermer les frontières avec l'Italie.
Elle a été un peu plus loin que ça. Et Éric Ciotti a minoré.
Reprenez ses déclarations. Elle a dit faire des contrôles.
Au départ, elle avait dit fermer. Ensuite, elle est revenue sur son...
Je vous assure que non, parce que comme la polémique allait sur ce terrain-là, j'ai pris la peine de vérifier. À aucun moment, elle ne dit fermer complètement. Elle dit établir des contrôles. On ne sait pas d'ailleurs quel type de contrôle, parce que la question de prendre la température des gens, des scientifiques, là, pour le coup, nous disent que ce n'est pas forcément un renseignement, une information sur l'état de la personne dont on prend la température. Donc, ça mériterait d'être affiné. Mais en tout cas, ça mériterait qu'on ne réponde pas non, c'est de l'idéologie, et puis c'est Marine Le Pen, et puis de toute façon, elle veut fermer les frontières, donc ça veut dire qu'elle dit des bêtises. Mais Michael parlait tout à l'heure de l'importance de la parole scientifique. Moi, je trouve que certaines instances scientifiques, et je pense notamment à l'OMS, tiennent des discours parfois très politiques. L'OMS devait se décider le 22...
Ils ont eu un temps d'attente à cause de la Chine.
Le 22 janvier, pour savoir s'il fallait ou pas déclarer une urgence mondiale, ils ont dit non pour des raisons qui me paraissent à moi très politiques. Et ils ont fini par le faire le 30. Et aujourd'hui encore, il y a une contradiction dans le discours des instances de l'OMS entre quelqu'un qui revient de Wuhan en disant l'épidémie est sous contrôle et qui ajoute quasiment dans la même phrase le monde n'est pas prêt à faire face à la pandémie.
C'est moi, j'évoquais effectivement les instances nationales.
On se retrouve dans un instant, vous l'avez dit, le coronavirus qui est aussi au cœur du débat politique et des municipales. C'est municipal, on va faire un zoom ce soir sur la situation à Strasbourg avec notre sondage et avec vous Adélaïde Zulfikar-Passil. On va le commenter ensemble. Bien sûr.
Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec le débat des grandes voix jusqu'à 19h autour de vous. Ce soir, Nathalie Lévy, Michaël Darmon, Adélaïde Zulfikar-Passil, directrice du département opinion de BVA et Judith Vintraube du Figaro Magazine.
Avec un zoom ce soir dans cette deuxième partie à 15 jours maintenant du premier tour des municipales à peu près, ce sera le dimanche 15 mars, sur la ville de Strasbourg avec revenue dans le jeu de ces élections, Catherine Trottmann, la socialiste qu'on avait vu se retirer depuis quelques années et qui est revenu donc dans le jeu à l'occasion de cette élection. Alors ce sondage BVA pour Europe 1 et Orange, qu'est-ce qu'il nous dit en premier lieu Adélaïde ce soir?
Alors il nous dit d'abord que le premier tour s'annonce très serré et que l'issue du scrutin est complètement incertaine. Très serré pourquoi? D'abord parce qu'on a deux listes qui arriveront en tête d'après notre sondage dans un mouchoir de poche. La liste LREM conduite par Alain Fontanel à 27%, juste devant la liste Europe Écologie Les Verts, conduite par Jeanne Barsé-Biguian. Et vous l'avez dit, la surprise peut-être de ce sondage, c'est la troisième place de Catherine Trottmann, créditée de 17% des suffrages. 17%, ça veut dire quoi? Ça voudrait dire que la liste socialiste serait en mesure de se maintenir au second tour. Alors que, je le rappelle, Catherine Trottmann est rentrée en campagne très récemment. Elle a pris la relève de Mathieu Kahn, qui a dû se désister pour des affaires judiciaires, on va le dire comme ça, et qui, lui, d'après les précédentes enquêtes, n'était pas en mesure de se maintenir. Donc ça veut dire que le PS revient dans la course, et ça veut dire que Catherine Trottmann peut, soit en se maintenant, soit en fusionnant avec l'un ou l'autre des candidats, peser vraiment sur l'issue du scrutin.
Le PS de Catherine Trottmann, potentiellement en faiseur de roi. Pour l'équilibre, on va juste écouter un petit sonore. C'est celui de la liste Les Républicains, précisément le candidat LR, Jean-Philippe Véter, qui recueille, lui, 15% d'intention de vote.
Mon parti, c'est le parti du changement. Je suis opposé à des candidats qui ont tous les leviers du pouvoir ces 12 dernières années. Ils sont comptables de la bétonisation de la ville, de l'insécurité, du manque d'emploi. Oui, je pense qu'il faut un souffle nouveau et les Strasbourgeois attendent de nouveaux visages.
Ah, c'est pas un nouveau visage, Catherine Trottmann, évidemment, Michael Darmon. Et c'est pas très nouveau monde, donc les Républicains, c'est le jeu, ils s'en offusquent.
Oui, bien sûr, mais c'est peut-être aussi une des constantes que l'on va peut-être voir émerger à travers ce scrutin, qui est une forme de reconstruction du périmètre droite-gauche. On le voit à Paris, enfin on le devine déjà à Paris, on verra s'il se confirme, s'il s'avère. On le comprend aussi maintenant à Strasbourg à travers ce sondage et peut-être c'est ce que l'on va voir. En tout cas, ce qui risque d'émerger fortement, c'est par définition, et c'est un peu normal également, c'est la faiblesse de l'ancrage territorial de La République En Marche. Puisque c'est quand même d'abord un tout nouveau parti, et qu'ils ont également eu une gestion de cette pré-campagne, de la composition de cette campagne de manière parfois incohérente. Donc le retour, une fois de plus, de ce vieux clivage, peut-être c'est ce qui est en train de se dessiner vers ce scrutin.
Quelque chose au national, donc peut-être plus largement au national.
À travers les grands de Strasbourg, et peut-être de manière plus générale.
Judith Vintraube, vous partagez?
Oui, sauf que Strasbourg, c'est un peu atypique, puisque Roland Ries, qui est le maire sortant, hein, qui a fait trois mandats, pas de suite, mais qui a fait trois mandats, était un socialiste, qui s'est rapproché d'En Marche sans s'y rallier vraiment, qui a fini par adouber son premier adjoint, Fontanelle, qui est aujourd'hui le candidat d'En Marche, mais donc venant du PS. Donc là, c'est pas vraiment une reconstitution de ligue dissoute.
Non, mais c'est l'éruption de Catherine Trottmann.
Les étiquettes changent,
mais
les gens sont pareils. Et à mon avis, la performance de Catherine Trottmann, peut-être qu'elle a laissé un bon souvenir, puisque après tout, elle aussi était maire. Et puis surtout, elle remplace un candidat très mauvais qui faisait des performances extrêmement médiocres dans une ville qui est plutôt à gauche quand même.
Historiquement, oui.
Et c'est effectivement extrêmement important pour Emmanuel Macron, parce que, en fait, quand on regarde les grandes villes, et Strasbourg est la huitième ville de France, hein, quand on regarde les grandes villes, la seule qui les semble vraiment avoir une chance de gagner, c'est Lyon.
Ça fait court.
Ça fait une seule. D'ailleurs, ils ont beaucoup rabaissé leurs ambitions.
Exactement. Le PS de Catherine Trottmann, potentiellement en faiseur de roi. Qu'est-ce qu'on retient également de ce sondage, Adélaïde? On voit que la sécurité et l'environnement, priorité des sondés, ça fait partie aussi, c'est ce qu'on retrouve globalement sur le paysage national.
Alors, sur le paysage national, oui. En revanche, ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà des préoccupations des Français dans l'absolu, on les avait questionnés il y a quelques semaines pour Europe 1 sur leurs préoccupations au niveau local. La sécurité, oui, c'est la priorité numéro un des Français au niveau local, partout. En revanche, sur la préoccupation environnementale, on note ici que Strasbourg a une spécificité, parce qu'il y a, dans les autres villes, c'était les impôts locaux qui arrivaient en deuxième position dans la plupart des villes. Donc on a une spécificité environnementale qui explique peut-être le bon score de la liste Europe Écologie Les Verts et qui pourrait peser sur le scrutin. Pour en revenir à Catherine Trottmann, on voit bien qu'elle est certes en état d'être faiseuse de roi ou de maire, pas en état elle-même de l'emporter. Et la question se pose dans ce contexte, comme l'a dit Judith Vintrop, de brouillage des pistes et des étiquettes, de avec qui elle va s'allier. On peut dire, est-ce qu'elle va aller vers Europe Écologie Les Verts? Naturellement, c'est vers ça qu'on penserait. On a testé un second tour dans ce cas de figure. Effectivement, la ville pourrait être emportée par une maire écologiste. Mais si d'aventure, elle faisait alliance avec Alain Fontanelle, qui, vous l'avez rappelé, est issu initialement des Rempes. Il était même été responsable des fédérations au Parti Socialiste. La ville basculerait plutôt du côté de la République En Marche.
Ouais. Je voudrais élargir un petit peu avec vous, parce que maintenant, ce premier tour se rapproche là, précisément au 15 mars. On y est, des élections municipales évidemment confirmées, au regard pourtant de la situation, mais on n'est pas encore au stade 3, hein, c'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure avec notre spécialiste. On a une situation à Paris qui est quand même inattendu. On avait des candidats mixtes, on a aujourd'hui trois femmes. Est-ce qu'il y a un vrai regain d'intérêt pour ces municipales, notamment dans la capitale, Mickaël Darmon?
Oui, en général, vraiment, la campagne des municipales démarre pour l'opinion publique le soir du premier tour, parce que c'est là qu'on découvre, au fond, les dramaturgies, les contre-contre-la-montre,
les dramaturgies, on les a pas déjà un peu découvertes.
Là, on les a eu avant. Donc déjà,
vous trouvez qu'il n'y a pas eu assez de rebondissements?
Peut-être y en aura-t-il encore, mais en tout cas, c'est vrai que là, pour le coup, à Paris, qui est au fond la plus, le plus national des scrutins locaux, on voit bien qu'il y a déjà un regard particulier. Ça confirme aussi, une fois de plus, qu'à ce stade-là, se balaye déjà le grand principe qui consiste à dire ce ne sont que des élections locales. C'est faux. Bien évidemment, tout le monde va regarder, et en premier Emmanuel Macron, les résultats de manière extrêmement précise, parce que c'est le fond de tarte de la campagne présidentielle, les grands rouages qui ensuite vont permettre à chacun de se positionner, peut-être au gouvernement d'être remanié, au parti majoritaire d'être remanié également à la suite de ces élections. Eh bien, il faudra attendre ce scrutin. Et puis l'autre paradoxe, c'est que en général, c'est considéré comme étant un vote sanction. Mais là, comme le parti est très très peu présent dans les mairies, comment sanctionner ceux qui veulent la politique du président de la République?
Mais pour revenir à Paris, ce qui est assez intéressant à observer là dans les tout derniers jours, c'est que on explique généralement l'ascension, la percée de Rachida Dati par trois facteurs. Elle fait une bonne campagne. Elle est clairement la candidate anti-Hidalgo. Or, il y a ras-le-bol d'Hidalgo à Paris. Mais ce qui est amusant, c'est que le match, pour l'instant, ne se déroule pas entre Rachida Dati et Anne Hidalgo. Rachida Dati, qu'est-ce qu'elle fait? Elle compte les coups entre Anne Hidalgo
elle
et Agnès Buzyn.
Et on l'a vu sur Europe 1, parce qu'elle est venue dans la matinale et invitée au micro de Sonia Mabrouk. C'est vrai que le match sur le coronavirus se jouait entre Agnès Buzyn et Anne Hidalgo. Et Rachida Dati a bien pris soin de rester bien à sûr l'extérieur de ce match. Adélaïde Zulfikar-Pasil, évidemment, on regarde ces trois femmes malgré tout se débattre avec des soutiens qui arrivent en nombre pour Rachida Dati, et pas n'importe quel soutien. François Baroin, Nicolas Sarkozy le 8 mars, hein, meeting avec Rachida Dati. Tout ça, ça pèse son poids aussi.
Ça pèse son poids, en tout cas dans les arrondissements qui vont être... Parce que toutes les enquêtes qui sont publiées jusqu'à présent sont des enquêtes qui sont réalisées au niveau global à Paris. On sait que le scrutin, il va quand même se jouer arrondissement par arrondissement. Il y a des arrondissements dans lesquels elle a... Voilà, elle sait, Rachida Dati, qu'elle peut, voilà, qu'elle peut compter sur eux, le 16e, le 7e, le 8e.
Le 16e, c'est compliqué, hein. Dans la situation.
Oui, par rapport à, oui.
Mais par rapport à la dissidence.
Par rapport à la dissidence, mais on peut imaginer qu'au troisième tour, il y aura quand même une alliance de la droite, si troisième tour il y avait en faveur de Rachida Dati. En revanche, effectivement, là, ça peut faire le poids, comme vous le dites, c'est dans des arrondissements qui sont aujourd'hui un peu plus tangibles, un peu plus tangents, comme par exemple le 17e, où des figures de la droite un peu plus consensuelles, on va dire, comme François Baroin, qui est la personnalité préférée des sympathisants, les Républicains, ça peut effectivement jouer en sa faveur.
Ce qui est intéressant aussi, c'est que Agnès Buzyn, qui jouit d'une certaine faveur, on a vu qu'elle réussissait à s'imposer des
trous. Oui, mais partie très tard.
Par rapport à Benjamin Griveaux, elle est partie déjà plus haut. Donc, ça veut dire qu'elle a des gens qui l'apprécient. Mais si elle est un peu appréciée partout, ça ne rapporte rien pour la mairie de Paris. Ouais. Ça la plombe.
Justement, sur Agnès Buzyn, d'un mot, Michaël Darmon, parti très tard, mais effectivement avec plus d'assentiment que Benjamin Griveaux, pour Agnès Buzyn, elle peut être la surprise de ces municipales ?
Elle est déjà, par définition. Oui. Elle arrive dans ce... en cours de campagne, elle a 30 jours, elle a le scénario impossible,
hein.
30 jours pour réussir et pour inverser la vapeur. Alors effectivement, elle fait une entrée réussie sur sa personnalité. On ne sait pas quelle déclinaison électorale aura sa personnalité dans les arrondissements, parce qu'effectivement, vous avez raison de le rappeler, tout va se passer dans les arrondissements. Pareil pour la candidate LR qui veut montrer que la droite se réorganise autour d'elle. Le meeting Salle Gaveau le 9 mars avec Nicolas Sarkozy va être son point d'orgue. Mais pour autant, est-ce qu'elle ne va pas perdre des arrondissements ensuite? C'est ça la grande difficulté. Donc, de ce point de vue-là, les enjeux sont personnels, se joue là maintenant, se cristallise, mais il ne donne pas encore le résultat de ce qui va se passer vraiment pour la mairie de Paris.
15 mars déjà au premier tour, au soir du premier tour. Merci à tous les trois d'être venus ce soir dans les grandes voix. Merci à vous. Europe 1.